Et oui, bonjour! La communauté de coups critiques. Je commence ça comme si c'était une vidéo critique. C'est ça qui est drôle, c'est vraiment le même. Mais on
Je
se
suis là.
retrouve aujourd'hui, ouais, c'est ça. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cet épisode, pour une expérimentation, en fait. On tente quelque chose, je teste des choses et bien, en fait, je teste un jeu, je teste une partie, une création de personnage, et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette occasion de cette chère Marika. Bonsoir Marika, ça va bien?
Soir, Pierre-Philippe, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Merci de lancer la perche. Donc, oui, Marika, en fait, vient se jeter dans la fosse au lion de tests de jeu, alors qu'on va se lancer dans une partie ce soir, une partie de quelques épisodes, quelques sections pour compléter le tout, compléter l'aventure en soi. Mais on va tenter de faire avant toute chose une partie zéro pour pouvoir créer le personnage de Marika pour qu'elle puisse découvrir un peu par le fait même, par la bande, c'est quoi le jeu, dans quoi est-ce qu'on s'embarque, et vous aussi, parce que ce n'est pas un jeu qui est publié. Ce n'est pas un jeu qui est disponible à téléchargement sur un site ou itch.io quelconque. C'est un jeu que sur lequel j'ai planché dans les derniers mois, dans mes temps libres, quand on en a. Et j'ai décidé de tenter le tout parce que je filais pour, j'avais le goût d'essayer des choses. Et j'ai même lancé, si vous n'êtes pas Patreon, vous ne pouvez pas le savoir, mais j'ai lancé en fait une espèce de petit questionnaire, un petit vote rapide sur quel jeu ils aimeraient que je fasse des petites présentations, que je fasse animer une partie afin de pouvoir montrer les mécaniques, mais aussi un peu l'ambiance du jeu en question. Et j'avais proposé, entre autres choses, Duplicata, qu'on avait déjà joué sur la chaîne. Marika avait déjà joué sur la chaîne d'ailleurs avec Pierre-Louis Renaud, la chaîne des Etu Games. Et également aussi l'autre jeu qui est un nom encore pour l'instant que je suis comme trop sûr. Marika m'a sorti Corne de Brume que j'aime beaucoup. Il y a Noir Abyss aussi que j'aime bien finalement, que je réfléchissais puis j'aime beaucoup. Il y a Après l'Abyss aussi que je trouvais cool. Il y a aussi le nom, c'est Zwip Whip Pow Pow, mais ça je suis pas sûr encore. Je trouve pas que ça serait très bien se porter à ce jeu-là. Mais finalement, c'est Noir Abyss ou Corne de Brume qui a remporté en fait le vote Patreon. Et ben c'est là-dessus qu'on se lance ce soir. Et ben Marika, encore une fois, merci. Merci de te prêter au jeu. Merci de tenter l'expérience, de voir un peu comment ça roule. Et vous allez voir un peu, c'est un peu ça le concept aussi. On va vivre l'aventure, on va vivre on va dire l'intrigue ou le mystère en soi. Mais il y a aussi un côté où est-ce que je vais quand même poser des questions à Marika sur les mécaniques de jeu. Voir qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle trouve qui va bien, qu'est-ce qu'elle trouve qui va mal. Qu'est-ce qui serait comme on dit en bon québécois, à tuner, la manière d'une voiture, à rendre un peu plus précis ou un peu plus concis. Ça reste à voir avec, on va dire, ce qu'on va tester. Mais une chose est sûre, le tout demeure basé sur des mécaniques qui existent en soi. Vous allez voir, le jeu est basé sur des mécaniques du Year Zero Engine, qui est le système de jeu qui est utilisé, entre autres, pour Alien, Blade Runner, Mutant Year Zero et d'autres jeux de ce genre-là, d'une mécanique quand même assez connue, qui peut être utilisée et repris. Donc, c'est basé là-dessus. Fait que la base est déjà assez solide, puis on construit un peu par-dessus. C'est un peu ça que j'ai fait. Ainsi, on va commencer, Marika, ensemble. Création de personnage. Première chose, tu as ta fiche de personnage devant toi. Je vais la présenter lorsque cette vidéo va être publiée. On va la présenter pour être sûr que les gens puissent voir un peu qu'est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce qu'une fiche de personnage comporte. T'as en haut à gauche de ton nom que tu peux déjà mettre en place si ce n'est pas déjà fait parce qu'on avait déjà convenu ensemble du nom de ton personnage.
C'est fait.
C'est fait, mon Dieu Seigneur, ok. Rapidement, rapidement. En gros, ensuite, on va y aller avec l'origine et l'occupation. Mais là, je trouve que c'est intéressant, mais aussi important de mentionner un peu c'est quoi le contexte ou le concept du jeu pour pouvoir se mettre un peu dans le bain. En gros, Noir Abyss ou Corne Brume ou Zwip Zwip Pow Pow, tout dépendant à quel moment est-ce que vous écoutez cette vidéo, ça se peut que le nom ait changé. C'est une ambiance. J'ai encore un peu de difficulté à dire exprimer le tout en peu de mots, mais c'est du. On va appeler ça du rétro-futuriste post-apocalyptique à la sauce Lovecraft. Dans le sens que ça se déroule dans l'univers du mythe de Cthulhu, mais après l'éveil. L'éveil étant ce qui est le fameux moment de cette fin du monde, tant mentionné dans les nouvelles, dans les jeux de Lovecraft, où le grand ancien Cthulhu se réveille finalement, émerge des eaux et crée ainsi un chaos permanent sur notre Terre. C'est un peu dans cette thématique-là. Si on vit le moment d'après, alors que l'éveil est survenu quelque part entre les années 20 et les années 30. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'éveil est survenu et que le grand ancien s'est réveillé, eh bien, le monde comme on le connaît a complètement chaviré, a complètement viré de bout en bout. Les astres se sont déplacés dans les airs. Une brume permanente s'est levée au-dessus des eaux. Les eaux elles-mêmes se sont ouvertes et ont englouti ainsi le monde, transformant ainsi la Terre en une simple boule d'eau avec quelques îlots terrestres ici et là. On est dans une temporalité plutôt floue, alors que les années et le temps même ne se déroulent pas vraiment comme on peut le penser. Et si on ne compte plus vraiment les années en 1930 quelque chose, on les appelle les 1900X, parce que les années ne sont plus vraiment calculées ou calculables même. Alors que le temps passe, souvent les gens vont mentionner après l'éveil ou avant l'éveil, selon les événements qui peuvent se rappeler. L'homme étant ce qu'il est, étant un parasite quand même assez bien tenace, eh bien, il a survécu à ce grand éveil. Et il continue ainsi à maintenir sa présence, à essayer de tenter de survivre au jour le jour au travers de ces différents îlots, ces différents lieux où les humains ont réussi à, on va dire, convenir ou créer des plateformes flottantes ou du moins des villes qui sont demeurées à l'extérieur de l'eau et qui ont pu ainsi prospérer en quelque sorte à leur propre manière. C'est un peu là-dessus qu'on va jouer. C'est une espèce d'ambiance où j'avais envoyé un document à Mariko concernant les références. Vous voyez ça un peu comme une espèce de mélange entre, si je vois dans les vraies références vidéoludiques, BioShock, j'avais parlé voyons, Sinking City, qui est un jeu qui a quand même beaucoup inspiré, que je trouvais très très cool en termes d'ambiance un peu 1920-1930, mais à la sauce survie post-apocalyptique. Fait que moi, c'était deux grosses ambiances, Dredge, pour les gens qui connaissent. Bref, je vais mettre des références dans la description de la vidéo si jamais vous êtes curieux d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il en est, là, pour vous donner une idée, mais on va le voir aussi plus concrètement en jeu. Mais c'était simplement pour mettre un peu la table pour la création de personnages. Parce que la création de personnages, Marika, se fait en ce qu'on appelle du. En anglais, ils appellent ça un life path. C'est vraiment comme un chemin de vie où on va lancer des dés au hasard et ça va te créer en quelque sorte ton cheminement, ou du moins ton passé, ton origine et tout ça. Mais tout de même, on avait convenu ensemble que ton personnage allait tout de même avoir un travail plutôt assez spécifique, puisque tu es lancé dans une intrigue. Tu es lancé dans une enquête, tu es une enquêteuse privée. Ainsi, tu vas pouvoir te mettre immédiatement ce terme-là, quoi, investigatrice ou enquêteuse, dans occupation.
Bien.
Parfait. On commence ainsi. Création de personnage, j'ai ma petite fiche devant moi. Là, je m'excuse, ça se peut justement que ce soit un peu plus clunky qu'à l'habitude parce que le but, c'est justement de voir un peu qu'est-ce qui roule bien, qu'est-ce qui roule moins bien. Le nom de mon personnage est fait. On a également aussi maintenant sa fameuse occupation, qui sont d'ailleurs basées. Les occupations qui sont disponibles peuvent aussi être lancées au hasard. Pour Mariko, on a convenu que c'était enquêtrice, mais elles peuvent être lancées au hasard. Et elles sont basées sur des manières très générales, sur des occupations qui sont reconnues ou même très souvent présentes dans les aventures à l'appel de Cthulhu et autres. Et là, on va
Et
choisir pour l'histoire. Oui, vas-y,
j'ai
excuse-moi.
une question par rapport à ça.
Oui.
Les occupations, c'est une table aléatoire, donc, en
Oui.
général?
En
Et
général, oui.
c'est combien? T'en as combien?
J'en ai présentement, je vais te dire. J'en ai, c'est une bonne question. Mon Dieu, tu me prends de court. J'en ai 12. 12. C'est des occupations qui sont très, justement, très génériques, qui peuvent être un peu prises comme on le veut, là. Par exemple, il y a scolaire, ouvrier, commerçant, artiste, criminel, etc.
Fait que c'est pas nécessairement lié à la quête. Le moi, c'est le cas, mais ça veut pas dire que ça serait toujours le cas
Non,
en fonction de la
effectivement.
partie.
Effectivement.
OK.
Puisque ça peut vraiment aller un peu dans tous les sens, parce que même dans une aventure de l'appel de Cthulhu classique, souvent les personnages ne sont pas nécessairement outillés à la situation dans laquelle ils se trouvent. Et là, ensuite, après la création de personnages, après, je veux dire, tu as choisi ton nom, tu as ton origine, on va y aller avec ton historique. Et là, l'historique, ça représente le passé de ton personnage. Ça ne représente pas ce que tu es actuellement, mais plutôt ce que tu as vécu autrefois. D'où est-ce que tu viens? Ça peut avoir un lien ou non avec la personne que tu es aujourd'hui, ou ça peut être complètement séparé de ce que tu es maintenant. Et on va en fait choisir au hasard. Fait que je vais te demander de lancer un premier D6 et de me donner le
C'est où ça
résultat.
sur l'affiche, par contre? Je le vois pas.
Ça va être dans, excuse-moi, ça se peut que la formulation ait changé, mais ça va être dans, ah, c'est origine en fait.
Ok, d'accord. J'ai eu 6.
6, parfait. Je vais te demander de me relancer un autre des 6 pour me dire le résultat.
2.
OK. Tu vas pouvoir marquer que tu viens d'une famille de pêcheurs de Kingsport. Et ça a une influence. Ça a en fait ça a des répercussions sur ton personnage en soi.
D'accord.
Si tu es curieux un peu d'en savoir un peu plus, Kingsport en soi, c'est une ville qui fait partie de ce qu'on appelle le Lovecraft Country, qui est les villes fictives inventées par Lovecraft. Tu aurais pu tomber, par exemple, tu sais, pour te dire un peu, tu aurais pu tomber sur un orphelin naufragé, tu aurais pu avoir été élevé sur un navire marchand, tu aurais pu avoir famille marchande d'Arkham, tu aurais pu tomber sur élevé sur un submersible militaire ou autre, mais tu es tombé sur famille de pêcheurs de Kingsport. Et Kingsport, dans l'univers de Lovecraft, c'est une ville côtière assez petite, assez tranquille, qui est surtout avec un attrait touristique, mais qui a une connexion assez, on va dire, assez directe avec ce qu'on appelle le monde des rêves, le monde des songes.
Okay.
Une espèce d'univers parallèle dans lequel les gens peuvent se projeter souvent pour aller explorer des lieux et des endroits merveilleux et aussi très effrayants. Et Kingsport, dans ce contexte de cette partie-là, c'est une ville qui est hors des eaux encore. C'est un îlot, comme Arkham l'est également. Et ça demeure un endroit qui est plus tranquille et plus calme que d'autres endroits à visiter qui sont beaucoup plus dangereux et directement en contact avec l'étrange et le dangereux. Parce que maintenant, c'est le quotidien des gens, les monstres sont là, le mal est présent, le surnaturel, le paranormal est tangible, il est là, et même que parfois il est utilisé ou utile pour le quotidien des gens.
J'ai
Puisque
une
tu...
première remarque à faire sur l'affiche.
Oui, vas-y.
Est-ce que le rectangle origine pourrait être plus grand?
Oui,
Parce que là, il
absolument.
fallait que j'écrive famille de pêcheurs de Kingsport dans un espace assez
Absolument.
restreint.
Absolument. Absolument. D'ailleurs, ça va probablement arriver à de nombreuses reprises, l'affiche qui est probablement trop petite. J'ai encore de la difficulté, en fait, à convenir la taille de l'affiche. J'ai encore de la difficulté à convenir c'est quoi une bonne taille d'affiche, parce que là, présentement, l'affiche que tu as, normalement, si je ne me trompe pas, elle devrait être d'une taille 8,5 par 11 à l'horizontale.
Ouais, ben là, c'est peut-être moi qui l'ai mal imprimé, mais là, ça ressemble un petit peu à ça.
Ah, effectivement, elle est trop
Fait
petite, là.
elle est plus petite que la feuille.
OK.
Mais en même temps, c'est la première fois que quelqu'un la remplit, n'est-ce pas?
Absolument.
Fait que je pense que c'est normal qu'il
Oui, mais ça se peut aussi que
y ait des
j'aille.
ajustements.
Ça se peut aussi qu'elle soit mal. Ça se peut aussi que ma dimension soit pas la bonne, par exemple. Ça se peut, je vais vérifier ça. Mais normalement, c'est supposé rentrer dans une feuille de 8,5 par 11. Ensuite, fait que t'as marqué ça. T'as maintenant la famille de pêcheurs de Kingsport. Ça, c'est ton origine. Tu vas te choisir parmi tes caractéristiques, parce que tu as des caractéristiques devant toi. En fait, les quatre caractéristiques de base sont physique, agilité, empathie ou esprit. Et là, ce que je vais te dire, en fait, c'est que je vais t'en nommer deux. Tu vas en choisir une des deux. Et tu vas, en fait, dans le fond, je te conseille de peut-être te prendre en note sur le coin de ta feuille, puisque ta feuille de personnage ne prend pas au complet ta feuille 8,5. De prendre en note lequel que tu choisis parce que même le choix que tu fais n'est pas définitif, ça va évoluer avec le temps.
OK. Parfait.
Tu as le choix entre, je te dis, physique ou empathie.
Et
Tu as choisi quoi?
empathie.
Parfait. Tu as choisi empathie. Ensuite, tu vas choisir deux compétences parmi celles que je vais te nommer. Et c'est des compétences, en fait, qui, justement, te sont... Tout ce que je te donne là, ce sont des traits, des compétences, des éléments qui viennent avec le fait que que tu viens, en fait, d'une famille de pêcheurs de Kingsport.
Parfait.
Je te donne des compétences, tu en choisis deux dans l'eau, et comme tes caractéristiques, je te conseille de le mettre de côté pour que tu puisses t'en rappeler lesquelles que tu as choisies.
Excellent.
Tu as conduite, tu as persuasion, ensuite, on a survie, recherche et artisanat. t'en choisis deux là-dedans. Tu me diras lesquels que tu choisis.
Ouais, je vais choisir persuasion et recherche.
OK, ça me surprend presque.
Ben là, je joue une investigatrice.
Ben oui, je sais bien. Ensuite, on y va avec les traits. Et là, dans le fond, c'est que chaque origine vient avec un trait que tu choisis parmi une liste. Les traits, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre sur ta fiche à côté. Et tu vas pouvoir mettre le trait et mettre à côté un plus un. Et ça, dans le fond, c'est que dans un contexte où est-ce que tu voudrais faire une action et que le trait, en quelque sorte, qui est souvent très spécifique, et pourrait être utile dans cette situation-là parce que ça se traduit bien, ou tu pourrais me dire « Hey, parce que je suis quelqu'un de très... je suis habitué à être sur les navires marchands, est-ce que je pourrais avoir le bonus approprié? » Si oui, eh bien, ton trait te donne un bonus. Et là, je vais expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne, faire des jets de dés.
Parfait.
Fait que tu choisis un des deux traits que je te donne. Tu as le trait entre « J'ai appris à garder le sourire dans les moments difficiles. »
OK.
Ou « J'ai vraiment une bouille sympathique pour les étrangers.
» Je vais y aller avec... c'est quand même deux bons. Je vais y aller avec « J'ai une bouille sympathique. »
Parfait.
Ça, je le marque dans « Trait et spécialité », c'est ça?
Exactement. On va faire après, là, j'ai une idée, là, tu m'enverras, tu me prendras des photos de ta feuille de personnage, puis je vais te la ré-remplir avec la bonne dimension, comme bon. Directement marqué, puis je vais pouvoir te le renvoyer, comme ça, moi, tu vas l'avoir, puis ça va être la version que je vais utiliser si je veux la montrer aux gens, mettons que je voudrais la partager.
Parfait,
fait que ça, c'est fait. Ensuite, on continue. On est rendu avec les événements du passé. Les événements du passé, c'est... un peu des différents événements qui sont survenus, des moments clés dans ta vie qui t'ont apporté soit du savoir, des traumatismes, de l'expérience, des événements qui ont permis à ton personnage de pratiquer certains talents ou même développer certaines capacités qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement un lien non plus avec l'occupation que tu as actuellement. Et à la création de personnages, en fait, on en choisit deux, ou plutôt on en lance au hasard deux. Donc, ce que je vais te demander de faire, oui.
Est-ce qu'il y a un endroit où les inscrire?
En fait, tu peux les inscrire dans notes si tu veux. En fait, ce qui est en soi, l'événement en soi peut, tu peux y faire référence si tu veux, mais c'est qu'il te donne des bonus également.
C'est parfait.
Donc, t'en as deux. Et au final, tu vas me lancer, en fait. Présentement, tu as. Je suis pas sûr que. C'est quoi les. Tu as deux D6, tu me disais, avec toi, présentement?
J'en ai plus que deux.
OK, lance-moi en quatre, s'il te plaît.
Parfait.
Dis-moi le résultat.
Cumulé ou sur chaque dé?
Cumulé.
16.
Parfait. On va lancer les deux, parce qu'on va aller voir c'est quoi. Fait que fais-moi une deuxième fois.
Quatorze.
Parfait. Donc, ton premier, c'est malheur familial. Et ton second, c'est menacé par la pègre.
Ça va bien, mon affaire.
Oui, ça va quand même bien. On va aller voir, on va commencer avec malheur familial. On dirait vraiment que le sort s'est acharné sur vous. Un à un, les différents membres de votre famille qui meurent de manière étrange et sinistre. Qu'avez-vous fait pour mériter une telle malchance? C'est des événements qui sont survenus dans ta vie. Ce que ça te donne comme bonus pour l'instant, un peu comme tout à l'heure, je te donne des choix, puis tu me dis lesquels que tu prends.
Combien?
Là, on va commencer avec, en fait, c'est des bonus qui sont associés avec tes caractéristiques de base. Un peu comme tantôt, je t'ai dit empathie et je pense physique, c'était bien ça.
Ouais.
Fait que ça va être un peu la même chose.
D'accord.
Ça va être, tu as le choix entre esprit ou empathie.
Je vais aller avec esprit.
Parfait.
Et là, est-ce que je l'écris dans notes aussi, vu que c'est lié au malheur familial? Parfait.
Ouais. Ou tu peux le prendre aussi de mettre de côté, comme tu as fait tout à l'heure avec tes... comme tu as fait tout à l'heure. Oui, exactement.
Parfait, d'accord.
Ensuite, tu vas choisir une compétence parmi celles que je vais te nommer.
D'accord.
Endurance ou survie?
Je vais y aller avec endurance.
Parfait. Et comme tout à l'heure aussi, tu vas te choisir un trait parmi les deux que je vais te nommer.
C'est bon.
Tu as le choix entre « Si je suis encore en vie, c'est parce que je sais faire attention.
Okay. »
Et l'autre, c'est « Avoir le mauvais œil sur moi, ça permet parfois d'entraîner d'autres gens dans notre malchance. »
Ah, c'est difficile les traits. Ils sont bons les deux. Peux-tu répéter le premier, excuse-moi?
Si je suis encore en vie, c'est parce que je sais faire attention.
Je pense que jouer le premier, ce serait plus clever de ma part pour mon personnage, mais le deuxième peut vraiment entraîner plus de trucs. Cool. Je vais aller avec le deuxième. Peux-tu me le répéter juste pour que je puisse bien l'écrire?
Avoir le mauvais œil sur moi, ça permet parfois d'entraîner les d'autres gens dans ma malchance.
Ça, y a-tu un bonus? Parce que tantôt, j'avais écrit plus 1 à côté.
C'est la même chose, plus 1.
OK.
Et le deuxième que tu avais eu, c'était menacé par la pègre.
Oui.
C'est pendant un long moment, la pègre vous avait à l'œil, vous deviez de l'argent, un de vos proches peut-être, mal attendu avec un mafieux local, bref, ça l'a laissé des marques. Mais là, c'est terminé, n'est-ce pas? J'ai vraiment écrit ça comme si c'était un vrai livre de jeu de rôle publié. C'est moi qui le lis, t'sais. C'est moi qui le lis, ça ne prend pas. Et même chose, je te donne deux choix de bonus dans tes caractéristiques de base, choisis lesquelles. T'as le choix entre physique ou agilité.
Agilité.
Parfait. Ensuite, je vais te nommer deux compétences. Tu t'en choisis une des deux.
Excellent.
Soit... Je vais regarder que je me trompe pas, là, parce que des fois, j'ai comme des fois utilisé des synonymes. Soit que tu as mouvement... ou endurance.
Mais là, mettons, si j'avais déjà choisi endurance plutôt, est-ce que je peux choisir
tu peux,
de
faire. Tu peux le prendre encore. Tu peux le prendre encore.
OK. Puis peux-tu m'expliquer en quoi consiste mouvement? Parce que je suis pas trop sûr.
Mouvement, c'est un peu l'équivalent de. Ça, c'est un peu l'équivalent d'acrobatie dans Donjons Dragons. C'est, dans le fond, faire des mouvements qui sont plus liés avec, exemple, faire de la randonnée, sauter par-dessus des obstacles, devoir sauter par-dessus une.
Plus lié à la dextérité, là.
Oui.
Ok. Je vais y aller avec mouvement.
Parfait. Et là, tu as encore le choix entre deux. Dans le fond, tu as deux traits, tu en choisis un seul.
Ouais.
Tu as soit. C'est important de vérifier si la personne porte une arme cachée sur elle. Ou j'ai appris à surveiller mes arrières.
Pourquoi t'en mets toujours deux bons?
Parce que c'est comme ça que je l'ai écrit.
Ça, ces traits-là, le choix est lié au choix que je viens de faire?
À menacer par la pègre.
Ok, d'accord. Peux-tu les répéter, excuse-moi.
C'est important de vérifier si la personne porte une arme cachée sur elle et j'ai appris à surveiller mes arrières.
Je vais y aller avec le plus général. J'ai appris à surveiller mes arrières.
OK.
C'est bon.
Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Veux-tu me dire pour l'instant tes caractéristiques physiques, c'est quoi les celles que tu as choisies?
Juste une endurance.
Non, ça c'est les compétences. Je parle vraiment physique, agilité, esprit, empathie.
Empathie, esprit, agilité.
OK, parfait. Merveilleux. On continue. On va aller maintenant vraiment dans ta classe en soi.
D'accord.
Pour l'instant, tu as combien de compétences que tu as choisies?
Compétences, ça, c'est ceux qui sont en dessous, là.
Oui, exactement.
4.
OK, parfait. Fait qu'on va aller voir ça. OK. Donc, l'emploi que tu occupes maintenant en tant qu'enquêtrice. On dit ça enquêtrice ou enquêteuse?
Enquêtrice.
Enquêtrice, c'est parfait. Je vais m'en rappeler. Je vais te nommer des compétences. Tu vas t'en choisir deux dans le lot.
D'accord.
Tu as le choix entre observation, intuition, mouvement et discrétion.
OK. Et là, mettons, si j'avais déjà choisi mouvement, encore une fois, je peux doubler.
Oui.
OK. Donc, observation, c'est synonyme de perception, j'imagine.
Oui.
Intuition, c'est vraiment comme le inside dans D&D.
Oui, oui.
Oh. Il y en a... Je peux juste en choisir deux, là?
Oui.
Oh, merde, oui. OK, je vais y aller avec observation et intuition.
Cool. Cool. Ensuite, je vais aller juste ouvrir une page que je voulais aller voir. C'est pour ta spécialité. Parce que tu commences avec une spécialité, puisque chaque cadre de métier offre une spécialité en soi. OK. Donc.
Juste pour spécifier, je viens de vérifier, enquêteuse se dit aussi.
Enquêteuse se dit
On
aussi.
On accepte enquêteuse et enquêtrice.
OK. Cool. Je
savais. J'avais un petit doute.
Parfait. Parfait. On a le choix. Tu as le choix entre deux compétences.
OK.
Tu as le choix entre contact ou, je ne sais pas si je me trompe pas parce que, encore une fois, j'ai pris une compétence qui se nomme le droit à l'information. Et je vais te dire un peu ce qu'elles font l'un et l'autre. Contact, ça te permet, une fois par partie, de, en fait, mentionner quelqu'un que tu connais dans l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire la ville, le îlot, la zone, mm-hmm. et que cette personne-là, elle t'est, sans nécessairement dire qu'elle t'est positive, elle est au moins neutre et tu la connais et tu peux faire affaire avec elle ou, tu sais, trouver, en fait, ça peut être une personne ressource pour un problème précis que tu as. Mettons, tu pourrais dire, exemple, hey, je connais quelqu'un qui travaille là, lui, je sais qu'il y a des bateaux, il pourrait nous en prêter un, on puisse, exemple, se promener de telle zone à telle zone.
Mais de faire appel au contact, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va obtempérer à ma demande.
Non.
OK, parfait.
Non, pas du tout. Et l'autre, c'est droit à l'information. Ça te fait commencer la partie avec ce qu'on appelle un indice. Un indice, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique que j'utilise dans ce jeu-là et que j'avais développé pour un autre jeu à la base. C'est des indices, c'est dans le fond, c'est des... C'est vraiment littéralement ce que le nom dit. Ce sont des indices que tu découvres en jeu qui ont un lien avec l'aventure, qui ont un lien avec la trame qui se déroule, qui ont un lien avec l'enquête dans laquelle tu es empêtré. Et ce qui peut arriver, c'est qu'au fil de la partie, tu trouves des indices. Que je vais dire, mettons que tu découvres des faits importants ou tu découvres des éléments importants en lien avec l'enquête présentement. Je vais dire, Marika, tu peux te mettre un point d'indice. Et les indices, c'est que tu peux les accumuler et tu les gardes. Et plus tu en accumules, plus l'adversité, ou du moins la menace qui est, on va dire, l'antagoniste du scénario, peu importe sa forme, que ce soit quelque chose de concret ou non, eh bien, plus tu en as des indices, moins l'antagoniste, elle est puissante.
Yeah.
Parce qu'en fond, c'est comme pour montrer que plus tu découvres des choses, plus tu comprends ton ennemi, plus tu es capable de le surmonter. Et plus t'en as, mieux c'est. Sauf que l'affaire, c'est que des indices, tu peux aussi décider de les dépenser, de les brûler. Si tu veux, je veux dépenser mon indice. Et quand tu dépenses un indice, c'est pour soit réussir automatiquement un jet, ou ça peut être, par exemple, éviter la mort. ou ignorer les effets d'une blessure ou les effets d'un trouble quelconque présentement. Mais on va dire ignorer les effets. Tu n'ignores pas le fait que tu reçois une blessure précise, c'est que tu as ignoré les effets secondaires de cette blessure-là pendant une scène, par exemple. C'est vraiment, vraiment une espèce de bouée de secours.
Ouais, bref, tout ça pour mettre dans un conflit interne à savoir si j'en dépense ou si je les garde.
Exactement.
Et ça, je le mets dans talent, le choix que je fais, parce qu'il n'y a pas de cas spécialité. OK, parfait. Je vais prendre celui avec les indices. Droit à l'information, c'est ça?
Oui, exactement. Fait que ça, tu peux marquer que tu as maintenant... tu commences avec un indice.
Parfait.
Parfait. Ça, c'est fait. Parfait.
Je vais te donner maintenant ton équipement de départ.
Parfait.
Tu vas pouvoir le mettre dans équipement. Et là, j'ai comme fait un peu une version mise à jour de la feuille que tu n'as pas présentement, malheureusement. Mais il y a quand même une limite d'équipement que tu peux posséder sur toi sans nécessairement dire, sans considérer que tu es en encombrance, c'est que tu as de l'encombrance. Sauf que ça devrait être correct, du moins avec ton équipement de base, là. Tu peux marquer que tu as en soi des vêtements communs.
Et ça, c'est ce que je porte sur moi ou j'ai ça dans un sac, mettons,
ce que tu
en plus
sur toi.
De... OK, d'accord.
Tu as un appareil photo. T'as une trousse d'enquête.
Est-ce qu'on sait qu'est-ce que la constitue?
La trousse, en fait, les trousses, c'est un peu une espèce de boîte à outils spécifiquement conçue pour un cadre de métier. Elle possède l'équipement nécessaire à la réalisation d'une tâche précise lorsqu'un personnage accomplit son travail. Fait que c'est vraiment, dis-toi, exemple une loupe, genre exemple de la petite poudre pour essayer de voir les traces de doigts, des choses comme ça.
Fait que ça veut dire que lors de mes actions, je pourrais mentionner « je fouille dans ma trousse pour telle chose », puis là, tu vas me dire « ah oui, ça serait logique que tu aies ça dans ta trousse d'enquête ».
Ouais, exactement.
Parfait.
Exactement. T'as des ouvrages sur un sujet précis. Ça va être ça, tu vas pouvoir le décider. Il n'y a pas de stress non plus à ça.
Il faut que je le décide avant la partie ou ça pourrait se décider en
ça
jeu?
Ça pourrait se décider en jeu, il n'y a pas de stress.
Fait qu'une fois que j'en sais un peu plus sur l'enquête que je vais mener, je pourrais essayer d'aligner mes ouvrages avec mes recherches.
Exactement.
Parfait.
T'as une matraque.
D'accord.
Tu vois que c'est quand même, on s'entend, on est dans de l'Uchronie, c'est quand même normal que les gens sont armés présentement. Là, il y a des monstres dans la brume. Fait que les gens sont armés. Et l'utilisation d'une arme à feu, c'est quand même quelque chose de très cool et qui n'est pas à la portée de tous. C'est pas tout le monde qui a un gun. Parce que éventuellement, c'est des ressources qui ne se renouvellent pas. Il n'y a plus de fusil pour les gens. Fait que t'as ça. Et t'as également... Mais ça, marque-le pas dans tes équipements parce qu'en soi, c'est plus pour dire que t'as un appartement dans une ville et peut-être un bureau dans une entreprise, mais je considère que t'as un appartement dans une ville. Okay. Et là, dans ta deuxième feuille de personnage, t'as en bas une section qui se nomme « Consommables et ressources ».
Ouais.
Ressources, tu vas mettre D8.
C'est bon.
Et les consommables... Tu vas te mettre 3 en nourriture et 3 en eau.
Ce serait un maximum de quoi?
De consommables, il n'y en a pas.
OK, d'accord.
Il n'y en a pas. C'est pour dire que c'est ce que tu peux avoir sur toi en termes de nourriture et d'eau, c'est à coup de 1 par jour qu'il faut que tu prennes. L'air et le carburant, c'est dans des situations plus précises. Mettons que tu conduis un véhicule ou que tu es dans un scaphandre en dessous de l'eau.
Et... OK, fait que dans le fond, eau et nourriture, c'est ce que je pourrais porter sur moi, mais ça veut pas dire qu'en arrivant à mon appartement, j'ai pas accès à de l'eau et de la nourriture.
Non, c'est ça.
OK, parfait.
C'est ça. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est pour la ressource. C'est que la ressource utilise, en fait, j'utilise la méthode dont ce qu'on appelle le dé d'utilité. Là. C'est quelque chose qui est très commun dans certains systèmes de jeu. C'est qu'au final, à chaque fois que tu dois te dépenser, ou à chaque fois que tu utilises ton argent, en quelque sorte, pour t'acheter des biens, tout ça, on fait un jet de ressources. Tu lances ton dé de ressources, qui est un D8, Et si tu as un ou deux, ton dé de ressources descend. Ça veut dire qu'il devient un 6. Et c'est comme ça que tu dépenses en quelque sorte tes biens. Et si, mettons, tu voudrais, exemple, avoir quelque chose qui est au-delà de ton, on va dire, de tes biens ou du moins des ressources que tu as, ben c'est qu'il descend automatiquement. Mettons que tu voudrais quelque chose qui serait à des 10, admettons, je considérais qu'immédiatement ton dé de ressources descend de 1 parce que tu dépenses beaucoup pour pouvoir avoir accès à ce bien-là.
Et c'est une question de bonheur. Quand tu dis de 1, c'est, admettons, ça passerait à des 6.
Exactement.
OK, parfait.
Et ça, je vais tout le temps utiliser ces termes-là. Je vais dire plus 1, moins 1, c'est tout le temps des niveaux d'échelle de dé.
De dé, OK. Puis est-ce que ça se pourrait, peut-être que ce ne sera pas le cas dans mon scénario, mais est-ce que ça se pourrait éventuellement que le dé de ressources augmente à cause d'une circonstance? OK, parfait.
Oui. Tu aurais pu avoir aussi un talent de base qui aurait fait en sorte que ton dé de ressources aurait été plus élevé.
Parfait. Ça, c'est fait. Tu as ton équipement de base.
Tu vas te trouver. Pense-y, là. Tu as le temps d'y penser. Dans tes petits objets, parce que tu as les armes et équipements qui sont en soi des objets qui doivent être comptés dans les limites de ce que tu peux transporter. Mais dans tes petits objets, c'est tout ce qui a un poids vraiment peu important. Et pense à un objet fétiche. Pense à quelque chose que ton personnage considère très important. Un petit objet que tu gardes sur toi tout le temps qui est très précieux.
Mais qui n'aurait pas une utilité dans la narrative. Ben, pas une utilité dans la narrative. Non, OK.
Ben, pas d'une utilité dans la narrative, non. Mais par contre, tu peux, par partie ou par, disons, on va dire, scénario presque, par aventure, tu pourrais l'utiliser une fois simplement pour pouvoir reprendre un peu tes esprits, dans le sens de te rapporter à cet objet-là que tu considères important pour pouvoir avoir les idées un peu plus claires.
Genre me recueillir un peu. Là.
Un peu, ouais.
OK, parfait.
Parfait. Donc, est-ce que tu voudrais me récapituler ce que tu as comme... Récapituler, c'est ça le terme? Pourquoi j'ai dans ma tête récapitulé, mais ça se dit pas. Récapituler, s'il te plaît, tes différents choix que tu as eus en termes d'attributs, mais aussi les compétences.
Mais attends, par attributs, tu veux dire caractéristiques?
Ouais,
OK. Donc, empathie, agilité, esprit.
Oui.
Et dans les compétences, j'ai persuasion, recherche, mouvement, endurance, observation et intuition.
Est-ce que as-tu des compétences que tu as pris deux fois?
Non.
OK, parfait. Tu vas pouvoir en soi te mettre, et là, c'est là que le cœur du système embarque, les attributs, les caractéristiques que tu as choisies, agilité, empathie, esprit, tu vas te mettre D8 dans les trois.
D'accord.
Physique, tu te mets D6.
J'ai peur que ce soit des 4.
Non, il n'y a pas de. Pas dans les attributs ni dans les compétences.
D'accord.
Les compétences que tu t'es choisi une fois, tu vas te mettre D6.
OK. Attends, je vais être sûr. C'est bon.
Parfait. Et maintenant, ta santé, en haut à gauche, ça va être l'addition de ton dé de physique et de ton dé d'agilité.
OK.
Ce qui devrait normalement
donne
te
14.
Donner... C'est ça, 14. En gros, c'est ça. Et, ouais.
Est-ce que c'est bien ou...
Oui, c'est bien correct.
OK. C'est 16 le maximum ou on peut dépasser des 8?
Ça peut aller jusqu'à des 12.
Oh, quand même, d'accord.
Mais des 12, c'est vraiment dans des circonstances, je dirais, assez particulières. Je pense que dans la création de personnages, je ne permettrais pas que ça monte plus haut que des 8 dans un certain cas, mais ça peut éventuellement monter à des 10. Mais tu aurais pu avoir, tu sais, entre, tu sais, des personnages vont avoir des points de vie entre 12 et 16 au final. C'est soit 6-6 ou soit 6-8 ou 8-8.
Fait que dans le fond, lorsque j'ai choisi tantôt mes caractéristiques, il y a un moment où j'ai eu l'opportunité de choisir deux fois empathie. Fait que là, ça m'aurait donné des 10, c'est ça?
Oui.
Si j'avais... OK, parfait.
Oui, t'aurais pu avoir des 10 en empathie. Mais ça aurait fait en sorte que tu aurais eu un autre D6 à quelque part.
Ouais, c'est ça. Ça a été moins équilibré, disons.
Exactement. Et en gros, donc, comment fonctionne le jeu? Maintenant, on est vraiment rendu là, parce qu'en soi, je pense que ton personnage est complet, je crois.
Attends, j'ai des questions alors.
Oui.
Dans stress, je mets pas de dés?
Non.
Ça va intervenir en cours de partie?
Oui.
Puis j'ai pas d'armure?
Non.
Parfait.
En gros, comment ça fonctionne? C'est que ce jeu-là, justement, je me base sur les mécaniques du Year Zero Engine, mais la deuxième version. Parce que ce système-là existe en deux versions. Il y a une version qui est en paquet de D6, où est-ce qu'on lance plusieurs D6 pour accomplir des actions. Et il y a une version avec ce qu'on appelle des step dice, c'est-à-dire des niveaux de dés pour accomplir, dans le fond, des actions. En gros, lorsque tu veux accomplir quelque chose, tu lances toujours soit un dé, deux dés, ou possiblement 3D. Le premier dé que tu lances, c'est toujours un dé de caractéristiques. Par exemple, tu vas dire, je vais lancer physique ou agilité ou esprit, empathie. Le second dé va toujours être une compétence. Fait que, mettons que c'est, tu voudrais faire un jet de empathie, persuasion, je pense.
Ouais, et intuition aussi.
Fait que tu pourrais faire, exemple, empathie, persuasion, ben tu lancerais un D8 et un D6.
OK, juste une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que la compétence que je lance doit être en lien avec la caractéristique choisie?
En temps normal, oui.
OK.
En temps normal, oui. Et ça pourrait arriver que dans certaines situations, ça pourrait être permis d'avoir, de switcher en quelque sorte, de changer le fait que Artisanos pourrait être utilisé avec agilité ou autre chose comme ça. Mais en théorie, les compétences sont associées aux caractéristiques dans lesquelles elles se trouvent en dessous. Fait que si empathie, admettons que tu fais un test, empathie et persuasion, tu vas lancer un D8 et un D6.
Ouais.
Tu peux le faire si tu veux. Il faut juste faire un test comme ça.
Ça donne 4.
Non, en fait, il faut que tes dés séparés.
OK. Donc, mon D6, c'est 3 pour le persuasion, puis mon D8, c'est 1.
OK, c'est vraiment poche. Parce qu'en fait, l'objectif du jeu, c'est d'avoir au moins une réussite. Et une réussite, c'est un 6.
Un 6 cumulé ou
non.
Un 6 sur le D8 ou sur le D6?
Oui.
Oula, OK, d'accord.
C'est quand même... Et le pire, c'est que ça semble être difficile, mais je te jure pour vrai que quand tu sors les caractéristiques et les statistiques, ça a du sens. Parce qu'en soi, à chaque fois que tu manques un jet, tu as toujours la possibilité de le pousser. C'est-à-dire de décider de faire est-ce que j'échoue ou je prends le risque de le réussir. T'sais, dans le fond, est-ce que je veux comme relancer en quelque sorte mon jet pour voir si je l'ai réussi après l'avoir échoué?
Mais il y a une conséquence.
Il y a une conséquence.
À relancer.
Une conséquence. Habituellement, la conséquence de base, c'est de gagner un dé de stress.
OK.
Parce que dans le fond, le dé de stress, c'est ce troisième dé que tu vas lancer.
Mm-hmm.
Et plus tu gagnes du stress, plus ton dé de stress est plus haut. Et ça, en fait, c'est une mécanique qui est transposée du jeu de Alien, où Alien plutôt utilise un paquet de D6, mais là, je l'ai comme adapté à un niveau échelonné. C'est-à-dire que plus tu es stressé, plus ton dé de stress est élevé, et plus tu es compétent en quelque sorte, ou plus tu es proactif dans l'action parce que tu es bonne, tu joues, tu es en train d'agir dans le stress et on va dire sur l'adrénaline. Mais l'affaire, c'est que si ça, un moment donné, ça va mal, ça va vraiment aller mal.
Mm-hmm.
On comprend. Fait que dans le fond, si mettons là, tu aurais échoué ton jet, tu pourrais décider de dire je vais pousser.
Mm-hmm.
Tu vas pousser. Le premier effet de vouloir pousser, on va dire le premier avantage, c'est de pouvoir lancer en plus un dé de stress. Parce que dès que tu décides de pousser, immédiatement, la première conséquence, c'est que tu gagnes un niveau de stress. C'est-à-dire que ton dé de stress est rendu à D6. Donc, avant même de lancer une nouvelle fois tes dés, tu vas assurément lancer en plus un D6.
OK.
Fait que là, tu vas lancer D8, D6, D6.
OK. Puis mettons que je le fais, là. Ouais.
Ouais.
Ah ouais, j'ai eu un 6 sur mon D8.
Une réussite.
Mais là, après les conséquences d'avoir un dé de stress mécaniquement, qu'est-ce que ça ferait?
OK, c'est ça. La twist. Tu peux voir sur ta deuxième page, il y a un endroit qui s'appelle un seuil critique.
Non. Ah oui, excuse-moi, oui.
Le seuil critique, en fait, c'est l'échec critique qui va survenir si tu as ce résultat-là sur ton dé de stress.
OK. Puis le dé de stress, je vais, à partir du moment où tu en as un, tu le lances à chaque fois que tu fais une action.
Tu le lances à chaque fois que tu fais une action.
Fait que les probabilités sont quand même assez hautes là, d'avoir un 1, mettons.
Éventuellement, oui. Éventuellement, oui.
Et plus là, tu... mettons...
Oui, vas-y.
En mettons que mon dé de stress est rendu à D8, mettons.
Oui.
Là, il est marqué 2 à côté, mais c'est si j'ai 1 ou 2 sur le D8.
Oui.
OK, d'accord.
Et ça... statistiquement parlant, aussi, c'est très proche. Dans le sens que avoir 1 sur un D6, c'est 33 quelque chose pour cent. Et avoir 1 à 4 sur un D12, c'est 44 quelque chose pour cent.
OK.
C'est quand même, c'est sensiblement pas loin de des mêmes risques. Sauf que la twist, c'est que si tu as un 6, c'est une réussite. Si tu as 10 ou plus, c'est une autre réussite. Fait qu'avoir, exemple, tu peux avoir plusieurs réussites sur un même jet. Ce qui te permettrait, par exemple, d'avoir supérieur à quelqu'un d'autre, ça veut dire si c'est un jeu opposé à quelqu'un d'autre. Parce que les succès s'accumulent, et les succès, quand ils s'accumulent, ils peuvent aussi également faire des effets supplémentaires. Ça, mettons, tu décides d'attaquer quelqu'un et que tu as plusieurs succès, chaque succès supplémentaire occasionne un point de dégâts supplémentaire, par exemple.
OK, donc juste pour être sûr.
Oui.
Admettons que là, admettons que j'ai pas le dé de stress, fait que j'ose mes deux dés normaux,
oui.
Puis que j'ai 6 et 8,
oui.
J'aurais deux succès.
Deux succès.
OK. Excellent, parfait. Fait que là, il vaut mieux dans ce cas-là, admettons, si j'ai deux D6 pour ma compétence et un D6 pour mon stress, il faut quand même que je sois en mesure de les différencier l'un l'autre.
Oui.
OK, parfait.
Oui, effectivement. Oui, c'est un bon point. Effectivement, c'est mieux de les différencier, même si c'est le même dé. Parce qu'à partir du moment que tu as un échec critique, un seuil critique, on lance sur une table de crise, qui en fait vraiment comment est-ce que ton personnage réagit à la situation actuelle, au stress qu'il est en train de vivre. Et ça aussi, c'est directement inspiré d'Alien et de, on va dire, du Year Zero Engine. C'est par exemple, mettons que je vais t'en sortir une. Là. En fait, le niveau de ta crise dépend aussi de à quel niveau de D t'étais rendu. Tu sais, mettons que t'es rendu D12,
la crise va
vraiment être plus terrible que si t'étais exemple D6.
Ça suit le niveau de stress que vit le personnage.
Exactement. Exactement. Fait que, mettons que je vais voir... c'est ça ici. Je me trompe pas. Voyons, on ouf.
Je peux te poser une question en attendant?
Oui, vas-y, pendant que je suis en train de chercher. C'est très parfait, tu peux me poser des questions.
Tu sais, admettons que j'ai un 1 sur le dé de stress, là, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, mais si j'ai un 1 sur mon dé de compétence, est-ce qu'il y a des conséquences ou ça fait juste que tu as échoué? Puis c'est
ça fait juste que tu as échoué.
OK. D'où la raison que c'est important d'encore plus les différencier l'un et l'autre.
Oui.
Parce qu'il y en a un pour lequel il y aura des suites. Là.
Exactement. Exactement. Et c'est ça. Mais c'est vraiment sur le dé de stress qu'il y a, qu'il y a quelque chose. Fait que, admettons que tu aurais eu... dis-moi que tu aurais eu un 1 sur ton dé de stress. Ton dé de stress était à quel niveau, par exemple?
Je peux te donner ce que je veux?
Oui.
D10.
OK, il était D10 quand même.
Ouais.
Par la fond, tu vas me lancer un D10 pour le résultat sur le test de panique.
5.
Tremblement. Vous êtes pris d'incorcible tremblement. Tous les tests de compétences qui vont demander, en fait, l'utilisation de l'agilité vont avoir un modificateur de moins 1 jusqu'à ce que la panique s'arrête.
Fait que là, le modificateur s'appliquerait, mettons, sur le résultat de mon dé?
En fait, non. Un résultat de moins 1 ou plus 1, admettons comme exemple tes 13 spécialités qui te donnent plus 1.
C'est le dé encore.
C'est le dé.
Fait que là, ça veut dire mouvement, j'aurais D4 au lieu de D6.
En fait, t'aurais rien. Et tu peux pas avoir une réussite avec D4.
Oh no! OK, mais là, attends, mais dans les cases où j'ai rien...
Oui.
Ça veut dire que je peux pas utiliser jamais ces compétences-là?
Ben, en soi, tu les utilises, mais t'as pas de compétences dedans.
Fait que là, je ferais juste lancer ma caractéristique.
Sauf si tu déciderais immédiatement de vouloir... Ben, en fait, tu le lancerais une fois, puis tu pourrais tout de suite décider de le pousser puis de gagner des points de stress pour pouvoir être meilleur. Parce que t'aurais un deuxième dé à lancer.
Et est-ce qu'il y a une façon de les pas les effacer, mais s'enlever le dé de stress ou
Absolument,
non?
absolument. Parce que les dés de
OK.
stress, ça s'accumule beaucoup, ça s'accumule
Ouais.
vite, mais ça s'enlève
Ouais.
vite aussi. En
De quelle
soi,
façon?
le stress. De quelle façon? De quelle façon? Ouais.
Je suis déjà stressée,
En fait, simplement te dire que tu es capable de prendre un temps de repos dans un endroit comme classique. Et quand je dis un temps de repos, je dis par exemple un repos long de 8 heures ou un repos court de 1 heure. Tu sais, prendre un 15 minutes pour reprendre ton souffle dans un moment où est-ce qu'il n'y a rien de stressant et il n'y a rien d'inquiétant, ton dé de stress descend tout seul.
là. OK.
Ton dé
Fait
de
que
stress
ça
descend
peut
tout seul.
arriver quand même à quelques reprises dans une
Ah
partie, là.
oui, absolument. Tu sais,
OK,
mettons, si je m'en
d'accord.
vais d'un point A, un point B, il faut que je me rende à tel village, puis je suis rendu avec un dé de stress de 8. Je vais tenter de, tu sais, de baisser, juste pour me dire que genre j'essaie de relaxer un peu puis de respirer. L'utilisation de ton, je te disais tantôt, ton petit outil porte-bonheur, là, ton petit objet fétiche,
Exact, toi, ouais.
ça te permet de immédiatement réduire ton niveau de stress.
OK. Parfait. Fait que dans le fond, ce que j'en déduis, c'est que il faut quand même pas hésiter à utiliser le stress pour pousser un peu
Non.
nos jets.
Non, exactement. Exactement. Et si, admettons qu'on y va avec tes traits spécialités, c'était au moins un de tes traits, par exemple, que tu avais.
Avoir le mauvais œil sur moi permet d'entraîner d'autres champs dans ma malchance.
OK. Bon, mettons que tu voudrais faire un jet de physique mêlée, puis ton but, ce serait de tirer quelqu'un avec toi parce que les deux vous tombez par-dessus bord d'un navire, puis que vous êtes en train de vous battre, puis tu veux le faire tomber avec toi par-dessus bord. Ben, tu pourrais me dire, est-ce que je pourrais utiliser ce trait-là? Je te dirais oui. C'est-à-dire que ton dé de force serait rendu à D8 au lieu de D6, parce qu'il était plus sain.
Le dé de physique, tu veux dire.
Oui, le dé de physique, excuse-moi.
OK, ouais, c'est ça, parce que j'ai pas la compétence. OK, parfait, excellent. OK, ça c'est cool. Fait que ça laisse quand même une belle possibilité de créativité là, à ce niveau-là.
Oui, exactement.
Parfait.
Exactement. Et en soi, comme tu vois, tu as les blessures et troubles. Ce sont en fait des effets plus permanents qui vont survenir lorsque tu vas avoir des crises ou que tu vas être blessé sérieusement. Parce que lorsque tu es blessé, tu tombes à zéro. Donc, tu perds tous tes points de vie. Tu es à
Ouais.
zéro. Je ne considère pas que tu es mort dans l'immédiat. Quelqu'un pourrait venir puis t'achever puis ça finirait là. Tu es assez conscient pour peut-être ramper sur le sol, mais pas assez pour pouvoir réagir. Mais l'affaire, c'est que dès que tu es blessé, dès que tu tombes à zéro, on lance sur une table de blessures. Voir qu'est-ce qui t'arrive. Et en fait, l'espèce de petit coche en haut, tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a trois petits ronds que tu peux cocher, c'est simplement pour te rappeler si tu en as, alors que tu peux aussi prendre le temps de les décrire plus amplement dans l'autre section au dos.
OK, excellent. Puis là, ça serait quoi la différence entre blessure critique, trouble critique et état, mettons?
Les états, c'est des trucs qui sont très. Les blessures critiques, c'est souvent des choses qui vont être pas nécessairement permanentes, mais qui vont devoir être soignées éventuellement. Alors que
OK.
les états, ce sont des choses qui peuvent disparaître avec le temps, mettons que tu dors ou que tu manges, parce que c'est des états qui sont, par exemple, à famille épuisée et, ou embrumée, qu'on va peut-être voir dans la partie. Fait que c'est ça. En gros, ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que tu as d'autres
Good.
questions?
Non, ça t'a bien répondu à mes interrogations.
Parfait. Et là, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Juste pour voir, ça doit faire au moins
Un petit peu moins d'une heure, je dirais.
moins d'une heure, OK.
Puis en passant, j'ai oublié d'enregistrer, fait que
On
j'espère
devrait être plus
vraiment
sérieux.
que...
Bon, ça
Ouais.
devrait être correct. Ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Je pense qu'on va limiter ça pour la session 0.
Parfait.
Puis au moins, après ça, immédiatement faire la session 1. Et comme ça, les gens vont pouvoir avoir accès immédiatement. Pour les gens qui nous écoutent présentement, parce que c'est vrai, on enregistre. C'est pas juste une discussion entre Marika et moi. Je serais curieux de savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Parce que oui, c'est basé sur un vrai système. S'il y a des éléments que vous êtes curieux d'en savoir plus, s'il y a des questionnements que vous avez concernant certaines choses. Maintenant que je pense, bah oui, Marika, pendant que je pense, dans tes armes et équipements, là, j'ai dit que tu avais une matraque. Je vais au moins dire qu'est-ce que ça fait, hein, c'est important.
Oui, je risque de l'utiliser.
Oui, j'imagine, j'imagine. Je vais te dire ça. En soi, c'est une arme au corps à corps, bien sûr. Et en soi, je vais te dire ça. Mon Dieu, je suis en train de chercher mes armes. C'est vraiment un véritable foutoir, mes règles de ce bonhomme. C'est vraiment pas faux. Je peux pas montrer ça à personne. Je peux juste comme tenter de les mettre le plus clair possible éventuellement. OK, je l'ai ici. Tu vas pouvoir mettre que les dégâts en soi.
Ouais.
C'est 3. 3 de dégâts. D'accord. Et le critique, tu vas pouvoir mettre que c'est 4.
D'accord.
Et je t'explique un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la base, ton arme fait 3. Et tu... Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, je t'en ai oublié quelque chose de vraiment, vraiment important, en fait. Vraiment, vraiment important. Tu vas pouvoir marquer à côté de ton arme aussi le... Mais si tu as de la place, là, ça se peut que tu n'aies pas de place aussi, je suis en désolé. Tu marqueras, en fait, D dans le fond, D-E, occulte, 6, assommé. Je t'explique. En gros, les armes ont des dégâts fixes.
Okay.
Contrairement à Donjon Dragon, c'est des dégâts qui sont fixes. Donc, tu fais 3, 2, 4. C'est quand même plus rapide. Tu as marqué que tu avais des dégâts critiques à 4. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir plusieurs succès permet d'augmenter les dégâts. Mettons que tu pourrais décider de... mais ça peut être aussi autre chose. Mettons que tu réussis à avoir 2 succès sur un jet d'attaque. Tu pourrais décider de... le premier succès, c'est faire les dégâts de ton arme. Puis tu pourrais demander quelque chose de plus narratif à ton deuxième succès. Comme par exemple, je peux-tu genre le désarmer, mettons. Ça, mettons. Mais tu pourrais aussi décider de faire un point de plus pour que ce soit en fait un dégât supplémentaire. Et là, à partir de 4, c'est un dégât critique. Et lorsque c'est un dégât critique... À ce moment-là, si la personne est, par exemple, un NPC ou un personnage non joueur, quelqu'un de pas très important, souvent, ça va être suffisant pour le mettre hors d'état de nuire.
OK.
Si, admettons que c'est pas un personnage non joueur ou du moins c'est quelque chose d'un peu plus important, bien, un dégât critique occasionne immédiatement des effets sur la table de blessure. Un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, avoir, par exemple, un poumon perforé, peu importe. Et là, le contexte du dé occulte, c'est qu'en fait, sur ce petit twist que j'ai rajouté, que j'aimais bien, que j'avais aussi utilisé dans Duplicata, c'est que, puisque les dégâts sont fixes, puisque c'est assez simple au final, c'est des dégâts qui sont directement dits, tout ça, à chaque fois que tu attaques avec une arme spécifique, souvent les armes vont avoir ce qu'on appelle avec eux un dé occulte, qui est simplement un petit dé que tu lances rapidement comme ça, et si tu réussis à avoir 6 ou plus sur le dé, tu peux, si tu veux, enclencher, si on veut, l'effet de ton arme, qui toi, est d'assommer la personne.
OK, d'accord.
Fait que tu peux faire comme, hey, j'ai eu 6 mon dé occulte, j'aimerais ça l'assommer. Et je vais faire OK.
Mais là, le dé occulte, je le lance pas à chaque fois que j'attaque.
Oui.
Oui, OK, d'accord. Oui. Fait que c'est un petit bonus à côté.
C'est un petit bonus à côté. Comme par exemple, je pourrais dire que le dé occulte pour un harpon, c'est que, en fait, l'arme reste prise dans la personne, si tu veux.
Mm-hmm.
Par exemple.
Ça, c'est cool, un harpon, comme arme.
C'est cool, un harpon. Ben, tu pourrais. Ça pourrait, éventuellement. Ça fait partie des
armes. La famille de pêcheurs, là.
C'est ça. Ça fait partie des armes qui sont quand même assez trouvables. Fait que ça ressemble un peu à ça. Et comme ça, je serais curieux de savoir un peu les gens qui nous écoutent, vos avis. Vous aussi, Marika, maintenant, à chaud, qu'est-ce que ça te dit, présentement?
Ben, ça me semble cool. Il y a quand même pas mal de trucs sur la fiche, mais en même temps, je trouve que c'est assez concis. Puis ça donne aussi une idée globale du personnage. T'sais, j'ai l'impression que c'est assez facile de pouvoir visualiser quel genre de personnage jouer avec ça. J'ai l'impression que ça va être difficile, mais bon, toi, tu dis que selon les statistiques, tout ça est très possible, mais on va voir. Mais au premier abord, je trouve que ça semble être assez difficile d'avoir des réussites, mais on verra une fois que les dés seront lancés, qu'est-ce qu'ils diront.
Oui, puis de toute façon, comme tu sais, en soi, ça reste des tests. Si je me rends compte que c'est absolument pas faisable, on va laisser tomber. Mais pour te donner un exemple, parce que j'ai sorti devant moi, je lis, c'est un espèce de petit, ça s'appelle le Year Zero Engine Calculator, qui te permet en fait de maximiser, voire tes pourcentages de chance lorsque tu fais des actions. Et si, admettons qu'on dit que tu lances un des 6 et un des 8, mettons, t'as pourcentage de chance d'avoir une réussite avant de pusher, avant de faire de pousser, en fait, de pousser ta chance, c'est 41%. Avoir un pourcentage de chance après avoir poussé, c'est 60%.
Ça, c'est quand même difficile.
C'est quand même difficile, mais c'est pas...
60%, c'est la note de passage.
C'est la note de passage.
Donc...
si, admettons que t'as, par exemple, il y a un dé de stress. En fait, non, c'est vrai, parce que là, le dé de stress, il est présent pour le poussage, parce que tu décides de pousser. Fait que t'aurais 2 dé 6, par exemple, et un dé 8... ça te donne immédiatement un... Toi, tu as. Ah non, tu as à peu près un peu, 65% de chances de réussite, puis même un 15% de chances de deux réussites.
Mm-hmm.
Fait que, on va voir. Ça se peut que ça soit, ça se peut que ça soit absolument pas réalisable ou faisable. À ce moment-là, on ajustera si on se rend compte que ça marche absolument pas. Et j'ai encore modulé là-dessus. Au final, la solution va peut-être être aussi simple que seulement te donner un peu plus de points de compétences à distribuer, peut-être.
Ouais. Mais en même temps, tu sais, là, ça prend pas en compte les traits spécialités.
Exactement. Les traits spécialités.
Je pense que ça va venir un petit peu balancer le. Tout ça, mais nous verrons. Peut-être que je vais mourir après un épisode.
Peut-être.
Mais peut-être. Qui peut-être. Sait? Qu'est-ce que nous allons voir?
Bref, je serais curieux d'avoir l'avis des gens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce que vous êtes curieux de voir un peu où ça s'enligne, de voir la suite des choses? Merci, America, d'être venu.
Merci à toi.
Ça fait plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois pour, en fait, le premier épisode, officiellement, de cette petite partie un peu test de ce jeu qui se nomme Zwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwipzwip voir.